Mon cher Hugues, pourquoi les chansons et les musiques sont-elles absentes du podcast ?
Ah, c'est une question de droit d'auteur, mon cher Rudy. On vous donne le teaser, mais l'action complète, c'est sur ovio.be.
Donc ici, c'est une sorte d'avant-goût. Et là-bas, sur ovio.be, c'est le festival complet.
La première.
19h-20h.
La semaine de 5 heures.
Hugues Daillé, Rudy Léonet.
Bonsoir, mon cher Hugues.
Ah, bonsoir, mon cher Rudy.
Et bonsoir à Antoine Duhartz qui nous accompagne ce soir.
Donc, bonsoir, Antoine Duhartz.
Notre cher Antoine.
Voilà.
Pour utiliser le vocable de circonstance.
Oui.
Est-ce que nos fournisseurs ont
bien travaillé ?
Oui.
Oh, ma foi, ils sont arrivés avec leur petite camionnette, leur petite tchouk-tchouk, et il y a de quoi faire. Très honnêtement, il y a de quoi faire.
Parce qu'on le rappelle, nous sommes tributaires des fournisseurs, nous ne sommes que des passeurs.
Oui.
Si on nous dit, bon, aujourd'hui, bof. Oui, mais oui. Nous, on vous oui. transmet ce qu'on reçoit.
Il y a des jours où il y a juste les légumes oubliés.
Oui.
Il faut bien reconnaître. Par contre, il y a des jours où c'est frais du marché. Aujourd'hui, c'est assez frais du marché, me semble-t-il. Est-ce que c'est également le cas dans votre domaine musical ?
Ah, non seulement c'est frais, très très frais, puisque ce qu'on va entendre sortira seulement officiellement demain. Et c'est aussi du circuit court, puisque c'est un groupe liégeois qui s'appelle Dansan.
Ah oui.
Et qui avait proposé un album... fort joli, vous vous souvenez
oui,
vous aviez
ils avaient
évoqué...
écouté John Lennon.
Exactement.
Oui.
Sur le single qui annonçait l'album Grand Salon. À peu près un an après la sortie de cet album, ils reviennent déjà dans une dizaine de jours avec un nouveau grand disque qui aura pour titre, bah, c'est très évocateur, ça s'appelle Suite. Grand Salon, suite royale, suite junior, ou bien la suite du précédent.
Oui.
Voilà. Suite, donc, ce nouvel album qui arrive dans 10 jours, mais dès demain, il y aura une chanson qui est probablement la plus ouverte, je dirais, vers un grand public et vers une diffusion la plus large possible pour Dansan. La chanson a pour nom You Love Me et ça sortira demain et c'est Dansan. You Love Me, c'est le titre, et c'était Dansan.
Liégeois. Déjà des dates de concert ou pas encore ?
Oui, il y a des dates. Je pense qu'ils seront à Chennai jeudi prochain, alors que nous serons à Liège. Donc on pourra faire une after commune.
Ben voilà.
On sera au parc. Il faut que je vois un peu la distance entre les deux.
Eh ben voilà, je vous fais confiance. Alors, du côté des plateformes, on peut dire que je trouve que le printemps démarre assez bien pour Netflix. Il y a quand même des périodes de creux. Et là, on a eu, j'évoquais hier la série Ripley qui suscite mon enthousiasme définitif. Et dans la foulée, il y a eu un film, à peu près à la même date, c'est arrivé le 5 avril, il y a un film intéressant qui s'intitule tout simplement Scoop.
Ah, j'ai vu passer.
Ouais, le titre, bon, ma foi, j'ai l'impression que ça a déjà été utilisé 10 fois. Mais ça s'intéresse à de l'actualité relativement récente. Et ça s'intéresse surtout au monde merveilleux du journalisme. Moi, j'adore les films qui parlent de journalisme. Depuis Les Hommes du Président, en passant par le Pentagon Papers de Steven Spielberg, qui était absolument formidable. Moi, j'aime bien quand on va au sein des rédactions et qu'on voit comment ça se passe. Et évidemment, le titre Scoop dit bien qu'il est question de journalisme. De quel journalisme ? Eh bien, il est question d'une interview qui a... marqué l'histoire de la BBC, l'interview du prince Andrew, une interview d'une heure où il devait s'expliquer par rapport à son amitié avec Jeffrey
Epstein. Et c'est là qu'on apprend qu'il a des problèmes de glande et qu'il ne transpire pas, c'est ça ?
Exactement, qu'on apprend plein de choses. Et c'est là surtout que dès le lendemain, il se... via un communiqué du palais, il cesse toute activité et tout mandat public. Et puis, dans un second temps, il sera démis de tous ses titres parce que cette interview va provoqué une véritable déflagration tellement elle est catastrophique. Alors, le film raconte comment est-ce qu'on en est arrivé là. Vous vous souvenez, par exemple, il y avait eu ce film formidable de Ron Howard qui s'appelait Frost Nixon.
Oui.
Comment est-ce que David Frost...
Avec la préparation...
préparait son interview de Richard Nixon pour que Nixon crache sa valda sur le Watergate. Film passionnant, passionnantissime. Eh bien, on est à peu près dans la même logique. Le contexte. On est à la fin des années 2010. L'affaire Epstein éclate, scandale sexuel, mais déflagration énorme puisqu'il connaissait toute la jet set. Et à l'occasion de la sortie de cette affaire aux USA, on republie une photo prise par un paparazzi new-yorkais du prince Andrew en grande conversation avec Jeffrey Epstein à Central Park. Le début du film, c'est justement montrer comment cette photo a été prise. Et puis donc, on arrive des années plus tard au cœur de la BBC, qui est en pleine tourmente. Problème d'audience, problème de renouvellement du public, il est question de virer 400 personnes. Enfin, c'est vraiment sale temps pour la BBC. Et l'équipe, le secteur information se pose beaucoup de questions. Et dans cette équipe... Et il y a une certaine Sam McAllister. Et Sam McAllister n'est pas, ne fait pas d'antenne, elle est en quelque sorte rabatteuse. C'est elle qui doit prendre des contacts pour des invités pour les émissions, dont l'interview de Newsnight, la grande émission de soirée, l'émission de référence. Et on voit au début du film qu'elle est traitée avec un peu de dédain par les journalistes sérieux de la chaîne, parce que elle est quand même là pour essayer d'avoir éventuellement des chanteurs et des pop stars et des gens qui peuvent des vedettes, quoi, en gros. Et mais Sam McAllister a quand même un carnet d'adresses, puisque c'est son métier. Elle passe son temps à prendre contact avec des attachés de presse, etc. Et toujours est-il qu'elle est approchée à un moment par l'entourage du prince Andrew qui fait une opération d'aide aux jeunes entreprises, etc. Et l'équipe...
Business Angel, voilà. On disait dans les années 90.
Voilà. Et donc l'équipe communicante autour du prince veut évidemment faire mousser cette opération pour redorer son image, parce que son image, avant même le scandale Epstein, n'est pas très 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 reluisante. Il est un peu considéré comme le béné de la famille. Donc il faut redorer son blason. Et évidemment, cette Sam McAllister... Comme ça tombe au même moment que cette photo qui ressurgit et qu'on est en plein affaire, il faut essayer de négocier une interview, mais faire comprendre à l'entourage que l'interview, on va parler certes de ses projets, mais il faudra surtout qu'il s'explique sur son amitié.
Ça va déborder.
Ça va déborder. Et donc ça, c'est la première étape, c'est comment... décrocher un rendez-vous. Et puis la deuxième étape, c'est effectivement... obtenir un rendez-vous avec l'équipe de la BBC, avec l'entourage non seulement du prince Andrew, mais le prince Andrew lui-même. Et à partir de ce moment-là, il y a d'autres intervenants de la BBC qui rentrent en jeu, dont la Emily Maitlis, qui est la présentatrice vedette de cette émission, et qui c'est elle qui va devoir monter au charbon et mettre sa réputation en jeu. Et donc, il y a toute une négociation qu'on imagine bien documentée, mais en même temps imaginée. On ne sait pas exactement ce qu'ils se sont dit, mais
peu à la The Crown, c'est-à-dire que...
Un peu à la The Crown, tout à fait, dans le même esprit.
C'est l'algorithme du scénariste se dit, voilà ce qu'ils auraient éventuellement pu dire, c'est plausible.
Voilà, et donc il y a toute une négociation, une rencontre secrète à Buckingham avec le prince Andrew, qui finit par donner son accord. Ok. Enfin, il ne le donne pas directement, mais il dit « je vous réserve ma réponse ». Et puis, ils apprennent que effectivement, il y a le feu vert pour faire cette interview. Et à partir de ce moment-là, gros stress, évidemment, parce que l'enjeu est énorme. La BBC ne peut absolument pas se permettre de se planter, ne peut pas non plus tomber dans une sorte de réquisitoire, interrogatoire, mais doit malgré tout poser les questions pertinentes, mais qu'il puisse... donner sa version des faits. Et donc, c'est quelque part un drame en trois actes. Il y a d'abord comment approcher le prince Andrew. Deuxième acte, c'est les pourparlers pour le convaincre à faire cette interview. Et troisième acte, l'interview proprement dite. C'est assez passionnant, je trouve. Et ce, je dis pas que c'est du grand cinéma, mais c'est assez passionnant sur ce que ça dit. En plus, c'est joué. Ben, on a quand même Gillian Anderson qui joue la présentatrice vedette, qui ressemble en plus physiquement à la présentatrice vedette, qui vient d'avoir joué Thatcher, justement, dans The Crown, qui a vraiment relancé sa carrière. Et l'excellent acteur anglais Rufus Sewell, qu'on a vu dans la série La Diplomate, la saison dernière. On attend la deuxième saison, mais avec la grève des scénaristes, forcément tout ça prend du retard. Et Rufus Sewell s'est fait la tête, enfin on lui a fait la tête du prince Andrew. Et ce qui est formidable, c'est de montrer combien cet homme est hors sol. En fait, il ne se rend absolument pas compte. Il vient à une réunion avec sa fille et sa fille essaye de lui ouvrir les yeux en disant « Mais papa, va sur les réseaux sociaux, tu verras ce qu'on dit de toi. » Il n'est pas sur les réseaux sociaux, il n'y connaît rien.
Il y a une posture un peu de roi du Moyen-Âge.
Je suis au-dessus de tout ça. Oui, en plus, on sait très bien, tous les tabloïds se sont amusés à ça. C'est que c'est le favori de la reine. On a toujours dit que c'est le
fils. Parce que c'est la pauvre nièce.
C'est le fils préféré. Ouais. Parce qu'il a fait la guerre des Malouines et qu'il est charmant et sympathique. Mais c'est ce qui est très très bien écrit et observé, je trouve, dans ce film. C'est donc un film, hein, d'une heure et demie. C'est pas une série. C'est la perte de repères et l'absence de réalité, de contact avec la vraie vie. Et il se permet des réflexions. Et on voit les journalistes de la BBC qui se regardent en disant « Il va quand même pas dire ça sur antenne. » Enfin, il est complètement à l'ouest. Et ça, c'est très, très, très bien perçu.
J'imagine qu'il s'est cru assez malin que pour donner une interview un peu à la manière de celle que Diana avait donnée, mais à son avantage, parce qu'elle était parfaitement sous contrôle.
Oui. Mais non, ici, en fait, il fait cette interview absolument désastreuse et il ne se rend pas compte qu'elle est désastreuse. À la sortie, il y a son entourage. Ça s'est plutôt bien passé, non? Et donc, du début jusqu'à la fin, aucune conscience de... Et évidemment, il y a une plane derrière tout ça, le nihilobstat ou pas de la reine mère, évidemment. Est-ce que le palais va accepter le principe de cette interview? Est-ce qu'il va s'enregistrer en plus une interview? C'est pas du direct. Donc, type repart, le producteur de l'émission repart à moto précieusement avec les cartes mémoire, comme si c'est comme le Graal. Et évidemment, grosse tractation avec les pontes de la BBC, avec le palais, pour dire, ok, est-ce qu'on peut la diffuser? Quand est-ce qu'on la diffuse? Dans quelles conditions? Avec quel avertissement? Voilà, c'est pour ça que je disais, les films sur le journalisme, quand c'est réussi et que c'est bien joué, c'est toujours passionnant, parce que on voit les enjeux, on voit évidemment que la BBC se rend bien compte qu'elle va faire une audience. Ça a été la plus grosse audience dans toute l'histoire de l'émission. Elle se doute bien qu'il y a un enjeu pour ramener le public, et un public qui ne regardait plus la BBC, de le ramener vers la BBC. Donc il y a des enjeux commerciaux derrière. Voilà, c'est tout à fait intéressant. C'est très instructif, on ne s'ennuie pas une seconde. Et donc ça s'intitule tout simplement Scoop. Ce n'est pas un film sur l'affaire Epstein. L'affaire Epstein,
oui, c'est une porte d'entrée.
C'est une porte d'entrée. D'ailleurs, une fois qu'on voit ça, mais pour ceux qui ne l'ont pas regardé, sur Netflix toujours, ça date de 2020, je pense, ou 2021, il y a un documentaire en 4 parties sur Jeffrey Epstein qui est extrêmement solide, avec des témoignages de jeunes filles qui ont été abusées lors de massages, avec évidemment le rapport de fortune, hein, le type qui, on voit que dans cette société hyper capitaliste, il fait miroiter les dollars, et des jeunes filles extrêmement pauvres y vont parce qu'il y a les dollars.
Une fragilité qui lui permet effectivement d'avoir assez vite le rapport dominant, et aussi par rapport à l'argent. Et sa stratégie de prédateur est très très bien expliquée. C'est très très mise en place comme un système qui fonctionnait parfaitement jusqu'à ce que... Et puis ça se prolonge avec une autre série qui s'intéresse plutôt à...
Sur sa rabatteuse.
Oui, à sa rabatteuse, à sa mère Mackerel, Ghislaine Maxwell.
Oui.
La vie de Robert.
Donc, il y a il y a effectivement pour ceux qui choisissent Coop comme porte d'entrée, après ça, c'est le vestibule, mais après ça, il y a des grands salons. Le labyrinthe.
Dites, voilà. À propos du prince Andrew,
on ne voit pas Sarah Ferguson.
Non.
The Red Head.
C'est Audiard qui faisait dire à un de ses personnages les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît.
Oui, c'est une des grandes maximes de Michel Audiard. Oui.
On est à peu près dans ce type de configuration.
Dans ce type de configuration, effectivement.
Donc ça s'appelle Scoop.
Ça s'appelle tout simplement Scoop et c'est une des nouveautés. C'est arrivé il y a quelques jours donc sur Netflix.
Très bien. Et c'est un film. Et c'est une
film,
fiction.
Hein. C'est une film. Oui, c'est avec. Il est mis en précaution. Tous les faits sont parfaitement exacts. Mais pour la fameuse formule, pour des raisons de dramatisation, certains raccourcis ont été opérés comme de coutume, quoi. Voilà. Et toujours est-il que la Sam McAllister, la rabatteuse qui a décroché la timbale, a depuis lors, mais de manière tout à fait volontaire, quitté la BBC pour créer sa propre boîte, etc. Mais elle a pu profiter de ses...
Oui, il est allé demander une augmentation, on lui a dit non. Voilà. Et donc, voilà, elle a pris ses clics et ses claques, voilà. Et elle a monté sa boîte.
Voilà, c'est comme ça.
Très,
Scoop.
Très bien. Bon, on va continuer, vous me disiez tout à l'heure, le circuit court, le petit artisanat.
Les légumes oubliés.
Les légumes oubliés. Je voulais vous parler d'un projet anglais qui existe depuis quelques années maintenant, qui est La Priest. Alors, c'est un musicien, c'est pas un groupe, c'est un musicien. Donc qui opère seul, il s'appelle Sam Dust, il a fait partie il y a longtemps, pour ceux qui s'en souviennent, d'un groupe qui s'appelait Late of the Peer, mais ce jeune homme très très apprécié d'une filière électro comme les Soul Wax, les Daft Punk, James Murphy, il est très 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 apprécié. Pourquoi? Parce que il joue sur des instruments qu'il a fabriqués lui-même.
Ah.
C'est quelqu'un qui est, on parlait de circuit court, c'est quelqu'un qui est passionné de phénomènes électromagnétiques, de fabrication de sons, et en vrai, il fabrique ses propres boîtes à rythme, ses propres synthés, générateurs de sons, séquenceurs. Il les a nommés Gene, alors on est à Gene 3, génération 3, et il est possible de les acheter. Vous pouvez acheter ces boîtes à rythme. Ce n'est pas fabriqué de façon industrielle. Je suis allé vérifier. Si vous passez commande, il vous demande 12 semaines de délai.
Ah oui.
Parce que si vous passez commande, alors vous pouvez évidemment...
Il doit le faire.
Et vous pouvez customiser, discuter avec lui, puisque ce sont des exemplaires uniques.
Ah oui.
Ça vous coûtera à peu près 2500 pounds pour une boîte à rythme, mais elle sera unique.
Plus les taxes.
Ouais, à moins qu'il ne livre lui-même.
Oui. Ou que vous profitez d'un petit séjour en Angleterre.
Et donc on peut discuter avec lui, il fait les adaptations que vous souhaitez, et il demande, dès le moment où la commande est passée, j'imagine qu'il sort le fer à souder, et c'est parti pour les circuits imprimés, donc il fabrique cette boîte à rythme. Il sera très très bientôt chez nous, je vous donnerai, il joue je pense dans un café à Anvers, donc on est vraiment dans l'underground, mais c'est quelqu'un qui, vous risquez de croiser les personnes que je vous ai citées à ce concert belge de La Priest, parce que c'est quelqu'un qui est très très suivi et qui influence très très fort, il est très inspirant pour des groupes qui eux-mêmes sont très très suivis. Il sort bientôt un nouveau disque dont on va écouter un extrait, donc il faut bien comprendre que la guitare qu'on va entendre, ça il l'a pas construite, c'est la guitare, une guitare qu'il a. Mais toutes les séquences qu'on va entendre, ça vient d'instruments qu'il a lui-même fabriqués. Il a soudé les circuits électroniques pour fabriquer ses boîtes, et tout ça a été enregistré au grand air dans son jardin.
Ah oui.
Donc c'est pour vous donner un peu une idée de l'état d'esprit de ce garçon. La Priest, on l'écoute avec City Warm Heart. La Priest. quand je voulais expliquer, vous vous êtes probablement dit de la musique de prise de tête avec un mec qui a son fer à souder. Mais en fait, c'est totalement décomplexé
moi,
et joyeux.
Bien, moi, j'aime bien l'artisanat.
Voilà, et sans aucune prise de tête, c'est du plaisir.
C'est comme les groupes qu'on a évoqués récemment qui utilisent des instruments anciens pour rejouer des morceaux. Moi, j'adore ce genre de
trucs. Le post-moderne jukebox.
Oui, aussi, oui, tout à fait.
Donc, alors, je me suis trompé, il ne va pas jouer du tout à Anvers, mais bien à Bruges. Au Cactus Café, le 2 mai. Alors, le Cactus Café à Bruges, il faut surveiller, il faut de temps en temps aller voir. Il y a quelques mois, ils ont accueilli Roddy Frame de Aztec Camera en solo. Voilà, donc c'est un endroit où il se passe des trucs super bizarres et super intéressants. Mais
Aztec Camera,
ils n'en font pas forcément toujours une publicité tapageuse. Il faut de temps en temps aller vérifier le programme du Cactus Café à Bruges.
Très bien.
La Priest, c'est pour le 2 mai.
Très bien.
Alors, mon cher Hugues, pendant que vous vous intéressiez à...
au prince Andrew et ses misères.
Vous faisiez l'analyse, que vous décortiquiez, dézoomiez le prince Andrew et sa stratégie de communication. Moi, je suis allé faire un tour sur Netflix où je dois bien vous avouer, c'est d'abord l'image. Enfin, je ne vais pas dire l'affiche, je ne sais pas comment, ce n'est pas la pochette non plus, il y a toujours une image qui vend
quelque part,
un programme. C'est une affiche. Voilà. Et c'est l'affiche d'une série qui a pour nom Parasite de Grey. Alors, un format un peu particulier, c'est 6 épisodes de 50 minutes et c'est une série sud-coréenne.
Rien à voir avec le film Palme d'Or. Hein.
C'est pourtant coréen, mais ça n'a rien à voir. Et pour éviter, j'imagine,
tout
amalgame, ici, on a Parasite, écrit avec Y, sous-titré de Grey. Parasite de Grey. Mais voilà, la série s'appelle Parasite. Alors, c'est quoi? C'est une adaptation d'un manga. Manga qui est paru en 88, qui s'est écoulé à 25 millions d'exemplaires, ce qui est bien, mais qui n'est pas non plus extraordinaire pour un manga.
Oui, j'allais dire, on est tout de suite avec des chiffres de millions d'exemplaires pour les mangas, mais c'est un peu comme à l'époque, on disait ça vaut des millions de lire. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il faut mettre avec nos barèmes, quoi, forcément. C'est...
Il a quand même mis quelques années à être traduit en français. Il est arrivé en français en 2004. Mais surtout, ce manga... a inspiré et a tenté pas mal d'adaptateurs, puisqu'il y a une série animée, et cette série, elle est disponible également sur Netflix, 24 épisodes, donc on peut s'amuser à regarder dans l'ordre soit l'animé et ensuite la série. Et il y a eu aussi en Corée déjà 2 tentatives d'adaptation en film. J'ai pas vu. Mais je me dis, de la manière dont c'est représenté et illustré dans cette nouvelle version 2024, je pense pas qu'avec, il y a quelques années, sans les moyens actuels de la CGI, des images de synthèse et des images générées par ordinateur, je pense pas qu'ils sont arrivés, il y a quelques années, à une représentation aussi fidèle de ce qui est dessiné, parce que c'est extrêmement compliqué à représenter en live action. Alors, de quoi ça parle ? On est un peu dans une sorte de science-fiction violente, sanglante, directement liée à une invasion alien. En gros, pour vous le pitcher de façon simple, des objets ronds, un peu comme des balles de tennis, tombent du ciel et une fois au sol, elles libèrent une sorte de parasite qui s'introduit dans le cerveau des humains et en prennent le contrôle pour les transformer en machines de guerre et surtout en machines à consommer de la chair humaine. Et il se fait que la Corée du Sud, dans cette histoire, est le pays le plus touché par cette invasion qui touche le monde entier. Mais cette invasion est complètement passée sous silence par les médias qui essayent de ne pas créer une panique généralisée. La police est sur le coup avec une unité spéciale rassemblée autour d'une policière, d'une chef qui est directement concernée par le problème parce que son mari a été infecté, donc elle en fait une affaire personnelle. Et cette unité spéciale qui est donc dédicacée pour d'abord détecter et ensuite combattre ces personnes infectées s'appelle The Grey, dont le titre Parasite The Grey. Et puis d'un autre côté, on a une jeune femme caissière dans un magasin qui a une vie toute simple, qui tout à coup, suite à une altercation, se fait agressée et laissée pour morte. Et c'est à ce moment qu'elle est infectée par un de ces parasites. Le problème, c'est que comme elle est entre la vie et la mort, le parasite n'arrive pas à l'infecter complètement. Et lorsqu'elle, finalement, est remise de ses blessures et de cette agression, elle n'est qu'à demi-infectée. Mmh. Donc, elle fait partie à la fois des personnages habités par un corps extraterrestre, mais qui ne peut prendre son contrôle que quelques minutes par jour. Le reste du temps, elle est 100% humaine. Ce qui fait qu'elle se trouve un peu...
Entre deux mondes.
Elle fait partie des uns, mais elle est aussi pourchassée par les autres. Et elle va servir, en fait, d'agent de liaison entre les deux communautés.
Un peu comme un éclaireur apache dans les westerns, l'Indien qui bosse avec les tuniques bleues, mais qui en même temps cause avec les Indiens.
Et qui parle anglais.
Ah, oui.
C'est exactement ça. Donc on l'a bien compris, dans la forme, on est un peu dans One Piece, à savoir on est dans le manga, dans l'animé et dans la difficulté de passer au live action, mais ici ils y sont parvenus. Et pour vous donner une idée, je reviens sur...
C'est uniquement du live action. Avec donc des effets spéciaux numériques.
Qui sont absolument bluffants. Et je me suis arrêté sur cette affiche, parce qu'on voit cette jeune fille avec une moitié de visage, puisqu'elle est à moitié infectée, qui est complètement déformée. On est entre du Francis Bacon, on est entre du Jérôme Bosch et du Beetlejuice.
D'accord.
Vous voyez cette image très très fameuse dans Beetlejuice, où à un moment donné, le visage de Michael Keaton, Beetlejuice, explose en comme une orange épluchée et ses yeux se trouvent au centre avec une langue énorme. Il a vraiment, son visage se transforme en une espèce de fleur sanglante, un peu aussi comme le monstre de Stranger Things. On est vraiment dans cet univers-là avec des visages qui sont déformés, décomposés.
Vous savez, historiquement, d'où ça vient, le visage comme ça?
Non.
Dr. Jekyll et Mr. Hyde.
Ah oui.
Oui, je pense qu'il y a eu des affiches où on avait l'honorable Dr. Jekyll et Mr. Hyde avec des gros sourcils, des protubérances pour symboliser le mal.
Oui, mais regardez extensions de visage. Sauf qu'une moitié de visage, ce n'est valable que pour cette jeune femme caissière qui s'en sort à moitié. Tous les autres ont le visage qui, à un moment donné, explose complètement et devient complètement autre chose. Les effets spéciaux sont assez bluffants avec ces effets de tentacules. Alors, c'est comment? Il faut rentrer dans l'histoire et accepter le préalable de ces virus.
Oui, bien sûr.
Voilà. Pour les Coréens, je pense que ça leur parle davantage parce que c'est aussi une espèce d'allégorie entre la Corée du Sud et les espions de la Corée du Nord qui venaient un peu laver le cerveau, avec le cerveau lavé, venaient essayer de récolter des informations, mais surtout de prêcher dans une infiltration secrète. Les Coréens du Sud, mais de façon totalement anonyme et de façon souterraine. Donc je pense qu'eux peuvent y voir aussi une allégorie politique, alors que pour nous, oui, même si on peut comprendre et entendre le propos caché, c'est surtout une formidable aventure de science-fiction et dont la réalisation, ici, grâce à la technologie actuelle, est absolument incroyable. On a des scènes incroyables.
Je viens toujours avec ma question rituelle. Conclusif ou bien pas du tout?
Il n'y a pas de saison 2 qui est annoncée. Je ne vais pas dire qu'il y a une conclusion, on est sur une note de fin haute, une résonance qui pourrait donner autre chose ou pas. Je tiens quand même à dire que ces effets spéciaux assez brutaux, violents, font quand même que la série est recommandé au plus de 16 ans,
d'accord,
ou déconseillé au moins de 16 ans,
d'accord.
Ça dépend dans quel sens on le prend, parce que le réalisme des scènes de transformation des visages est assez bluffant et peut effectivement effrayer un public plus jeune et plus perméable et plus sensible. Voilà. Donc ça s'appelle Parasite, The Grey, vous l'avez compris, c'est sud-coréen. et c'est disponible depuis quelques jours sur Netflix. On vérifiait hier les têtes de gondole. Ça fait partie des séries qui sont pour l'instant les plus visionnées sur Netflix. Et c'est vrai qu'elle est parfaitement spectaculaire.
Très bien. Je vous dis, quand on voit ça, on se dit... Un bon printemps pour Netflix, une offre variée mais assez haut de gamme.
Ils sortent tellement de choses que
forcément il y a la loi statistique, il faut forcément qu'il y ait des bonnes choses.
Il y a des bonnes choses et c'est sans compter la réappropriation de catalogues complets qui valent vraiment le détour. J'ai envie d'en parler la semaine prochaine. Ils viennent d'hériter des 8 saisons de Dexter, qui est quand même une série
fondatrice.
Et pour une génération qui n'aurait pas connu Dexter, dont c'était un peu compliqué.
Ils ont déjà récupéré Killing Eve aussi.
Voilà. Donc ils récupèrent des catalogues pour une période déterminée. Mais sur Dexter, on y reviendra peut-être la semaine prochaine. Pour suivre, j'avais envie qu'on parle de Beth Gibbons, donc la chanteuse de Portishead qui prend son temps. Elle arrive le 17 mai avec son album solo. Elle sera le 6 juin au Cirque Royal. C'est déjà complet alors qu'une seule chanson...
C'est celle qui fume et qui est avec des vieux pulls, c'est ça, hein?
C'est ça.
Oui.
Et qui a les cheveux qui pendouillent.
Et qui mange des légumes oubliés, je pense.
Aussi, en sandales.
D'accord.
En sandales avec peut-être des chaussettes. Ça sera à vérifier le 6 juin au Cirque.
Alors là, je fonce. Oui. Il s'agit de vérifier s'il est en sandales ou en chaussettes.
Leaves Outgrown s'appelle son album qui sera là le 17 mai. Donc on aura quand même l'occasion de l'entendre avant le concert. Et de cet album, elle livre une nouvelle chanson. Je pense la dernière avant l'album. La chanson a pour nom Reaching Out. C'est Beth Gibbons. Mais quel rythme trépidant auquel elle ne nous avait pas habitués. Moi, je m'étais dit au-delà de 45 bits par minute.
Eh ben non. Ça pogote.
Ouais. Est-ce que ça pogotera en sandales et chaussettes au Cirque Royal? Réponse le 6 juin. Beth Gibbons.
Ça pogote un max. Alors, vous savez que j'aime bien de temps à autre quand l'agenda me le permet de faire des incursions.
Moi qui vous connais bien, vous aimez beaucoup plus de choses que vous ne laissez apparaître en règle générale.
Et donc, quand l'agenda le permet, j'aime bien faire des incursions au théâtre parce qu'il s'y passe des choses intéressantes.
Je sais pourquoi. C'est parce que vous aimez bien vous habiller pour sortir.
Mais
vous allez voir un concert, vous êtes tout débraillé. Mais quand vous allez au théâtre, vous vous parfumez, vous êtes coiffé.
Mais j'ai un énorme problème.
Vous y allez souvent en calèche.
Oui. Mais j'ai un énorme problème, c'est la place pour les jambes. Il faut que j'ai une place sur le côté parce que sinon mes genoux cognent les sièges de la rangée devant.
Et si vous les rabattez, vous les avez sous le menton.
Ça ne va pas.
Ouais.
Donc, j'aime bien des incursions dans le monde du théâtre et j'aime bien aussi des théâtres qui osent monter du répertoire. C'est-à-dire qu'il y a énormément...
Avec un entr'acte, où vous pouvez aller voir une coupette.
Ou une tuba.
pour socialiser un peu...
Pas forcément.
Que raconte-t-on en ville sur la semaine des 5 heures?
J'aime bien le répertoire parce que je trouve que c'est très très bien de faire des créations.
On m'a dit que vous applaudissiez avec un éventail en hommage à Karl Lagerfeld.
Ça de toute façon. Et donc toujours est-il que, pourquoi le théâtre de répertoire? Parce que le théâtre c'est d'abord la beauté d'un texte. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de créations sur des collages ou des adaptations de romans ou des collages de témoignages, certes, très bien, mais de temps en temps revenir à une grande pièce du XXe siècle, why not? Et là, le fait que le théâtre, le public ait mis à l'affiche La chatte sur un toit brûlant de Tennessee Williams, ça a excité ma curiosité parce que Tennessee Williams reste quand même un des grands dramaturges américains du XXe siècle. C'est Soudain l'été dernier, c'est Un tramway nommé Désir, c'est La ménagerie de fer, beaucoup de ses pièces d'ailleurs, et c'est un peu l'atout et en même temps le problème, c'est qu'elles ont été adaptées au cinéma avec des acteurs immenses.
Et merveilleusement chantées par Johnny, parce qu'on a tous quelque chose de Tennessee.
Ça n'a rien à voir avec l'État. C'est bah Tennessee oui. Williams. Bah
évidemment.
Mais ça, Michel Berger le savait, mais Johnny ne le savait pas.
Quelque chose de Tennessee.
Voilà. Et Michel Berger le savait, mais attends, Johnny ne le savait pas.
Un message d'Yvan Cassar, je suis disponible.
Et de Jean-Baptiste Guégan. Et donc, toujours est-il que La Chatte sur un toit brûlant, ça date de 55. Je disais le grand atout et en même temps la grande difficulté, c'est que ça a souvent été adapté au cinéma avec des acteurs immenses. Un tramway nommé Désir, c'est avec Marlon Brando, et La Chatte sur un toit brûlant, le film de Richard Brooks, c'est avec Paul Newman et Liz Taylor. Et donc forcément, ça s'est entré dans l'inconscient collectif.
Et aussi grâce à Classic Ciné.
Et grâce à Classic Ciné, ouais. Tout à fait. Et donc c'est assez casse-gueule de monter ça aujourd'hui, mais en même temps c'est intéressant. Alors, il est question de quoi ? Mais comme souvent chez Tennessee Williams, ce sont des psychodrames familiaux qui révèlent les aspects les plus obscurs et les plus cachés de les vices les plus cachés des membres d'une famille. Et il est souvent question d'homosexualité larvée, vous diriez aujourd'hui crypto-gay.
Ben
voilà, donc, et ici les questions d'un sportif accidenté qui a une jambe dans le plâtre, Brick, qui est marié à Maggie, et Maggie devient dingue parce que clairement il ne lui fait plus l'amour. Alors pourquoi est-ce qu'il ne lui fait plus l'amour ? Est-ce que c'est parce qu'il a sombré dans l'alcoolisme, ou il a sombré dans l'alcoolisme parce qu'il a perdu son meilleur ami? Et est-ce que c'était uniquement son meilleur ami, ou bien il y avait plus que ça? Donc il est question de ça dans cette histoire, dans cette crise de couple. Et au-delà de ça, ce couple se déchire, mais ce couple se déchire dans une grande maison de Big Daddy Pellet, qui est le patriarche, qui est propriétaire de la plus grande plantation de coton du Mississippi. Il est malade. Il ne le sait pas. Il croit qu'il est en rémission, mais il est condamné. Et toute sa famille se réunit avec aussi la perspective de l'héritage, naturellement. Donc il y a tout ça dans cette pièce, avec des personnages, des joutes verbales et une vraie profondeur psychologique. Alors moi, je disais, j'étais heureux de voir ce texte joué en français, mais en même temps, je suis resté sur mon quant à soi, parce que je me suis dit c'est dommage, non pas du tout que la réalisation est indigne, c'est fait de façon très très honnête, mais je me dis c'est dommage qu'on ne sente pas, ou qu'on sente si peu, le caractère américain et le caractère. C'est une pièce d'époque, c'est les années 50, c'est le Sud, le poids du pouvoir blanc qu'on sent si peu dans cette réalisation mise en scène par Michel Cassen-Hollenbogen, qu'on sent si peu le caractère américain de la pièce. En fait, on a presque l'impression, alors qu'ils ont gardé les noms américains, les décors et tout, on a presque l'impression qu'ils ont essayé un peu une adaptation européenne. Michel Bogen, il joue le Big Daddy, mais on a l'impression qu'il est plus habillé comme un grand bourgeois du Béoué qu'un propriétaire sudiste. Et donc, il y a une incompréhension, pour moi, ou en tout cas une incapacité à traduire vraiment le caractère spécifiquement d'Amérique profonde qui est la marque de fabrique de Tennessee Williams et de ce qu'il dénonçait aussi. Donc voilà, c'est de l'honnête travail qui est une sorte de sésame pour rentrer dans cette œuvre monumentale qu'est l'œuvre de Tennessee Williams, une fois encore dramaturge majeur avec Arthur Miller, avec Eugene O'Neill, dramaturge majeur du XXe siècle. Mais on se dit toujours, comment est-ce que certains qui font des adaptations françaises ne regardent pas plus de documentaires, enfin, ne soient pas plus...
Et c'est pas voulu, le fait qu'ils soient habillés...
Non, je pense... Non, il y a une volonté, parce qu'on repasse il y a un pick-up, on passe des vieux morceaux américains de l'époque, mais il y a quelque part une sorte de transmission qui ne s'est pas faite, et on est dans quelque chose de beaucoup, beaucoup trop... de beaucoup trop européen, de beaucoup trop sage aussi. Donc voilà, c'est de l'honnête travail, et surtout, il y a le mérite de remettre ça au répertoire, de remettre ça à l'affiche aujourd'hui, donc bravo de ce côté-là, mais à la sortie, j'ai été vraiment déçu. Alors on va dire, ah, c'est moins bien que le film. C'est pas comparable, mais il y a le problème effectivement que dans le film, quand on voit, dans le film de Brooks, quand on voit Big Daddy, ben, c'est autre chose, quoi. C'est, voilà. Et puis, c'est difficile de rivaliser avec la beauté, le charisme de Paul Newman. Voilà. Ça, c'est, mais voilà. Mais donc, les comparaisons, c'est pour ça que je dis que c'est un cadeau empoisonné quand on a toujours des films comme ça, qui ont un peu inscrit l'œuvre de manière définitive.
Ça a tellement oblitéré l'imaginaire que c'est très très compliqué.
C'est très compliqué.
Même avec un Karcher, c'est compliqué.
C'est très 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 compliqué. Et parfois ça, par rapport à aussi en musique, il y a certains trucs où les reprises ne sont pas possibles parce que l'original est trop prégnant, trop fort, trop présent.
Ou alors, il faut en faire complètement autre chose avec un vrai point de vue.
Oui, ça, c'est...
Par exemple, ici, on aurait pu imaginer des marionnettes.
Oui, mais, ou alors on fait en France, vous avez peut-être suivi Bérénice avec Isabelle Huppert, où on enlève tous les seconds rôles et où Isabelle Huppert joue toute seule dans un décor improbable, au point même qu'il y a des mecs dans la salle qui disent « Isabelle, on ne comprend pas ce que tu dis !»
Un peu comme dans Yannick.
Comme dans Yannick.
J'ai pris congé, j'ai payé ma place pour me divertir.
Voilà. Voilà. Donc, ça s'appelle La chatte sur un toit brûlant. C'est de Tennessee Williams. C'est pour les curieux. C'est quand même c'est une longue durée. C'est jusqu'au 18 mai prochain. Et donc, ça se joue à Bruxelles. Voilà.
Bien.
Avec quoi
bien.
Quitte-t-on aujourd'hui?
On va se quitter, mon cher Hugues. Vous savez, on parle pas plus tard, je crois, hier soir, vous avez évoqué ce scénariste pour Ripley qui est passé derrière la caméra.
Oui,
un peu changé
Steven
de rôle.
Zalian.
Les chaises musicales existent beaucoup. L'acteur qui devient réalisateur, le réalisateur qui devient acteur, ou le scénariste qui réalise. Voilà, les échanges de rôles sont souvent assez rafraîchissants et permettent d'avoir une nouvelle inspiration. Ce sont des choses qui sont assez intéressantes. Parfois, on a des groupes aussi qui, en studio, pas toujours pour l'enregistrement, mais échangent les instruments pour voir ce qui va se passer, essayer de provoquer une sorte de mini-cataclysme dans leur routine pour redevenir quelque part un peu frais et créatif par rapport à leurs habitudes de travail. Je voulais vous parler d'un musicien. Oui, au départ, il ne l'est pas. Au départ, il est tour manager. C'est un gars qui est tour manager, notamment pour des groupes électro comme Hot Chip ou Fortet. Et à force d'observer les autres...
Il s'est dit, ben pourquoi pas.
Voilà, il s'appelle Agop Chaparian. Je pense qu'il doit être
arménien.
D'origine arménienne. Ouais. Et ce tour manager de groupe a décidé, lui aussi, de fabriquer sa musique. Forcément, cette musique, elle évolue dans un univers qui est assez proche des groupes dont il s'est occupé, donc plutôt électro. Et il sort un titre qui est tout à fait convaincant, qui a pour nom The Orchid Verse. Et il s'appelle Agop Chaparian, ancien tour manager, devenu musicien. Merci Antoine Duhart, merci mon cher Hugues.
Et
on se dit
grand plaisir.
À demain.
Ouais.
À demain.
Bell tone resonating. Sound of laughter, scream inside. Sound of loving my other inside. Sound of highest sound in.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Audio.